un phénomène qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement?
Le magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
Trois vendeuses devant les prud'hommes, elles demandent réparation suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios. That boy you call is a diamond fella. All you little boys have a comedy of errors. You fellow, but you fellows get played like a cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do?
Bonsoir, il est mercredi 9 avril 2014, il est 19h passé de 3 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Alors ce soir on va se rendre compte que travailler ne suffit plus pour se loger.
Ensuite on reviendra sur la fin de la trêve hivernale.
Ensuite on va parler du squat Le Cagibi qui a été expulsé aujourd'hui à Lyon.
Quelques brèves de prison.
Ensuite, on va revenir sur le génocide au Rwanda et le rôle de l'État français.
Vive la liberté de la presse.
Ensuite, on parlera de l'instrumentalisation de l'aide au Mali.
Un lycéen sans papier qui est en prison.
Des news de Calais.
Et on finira par l'occupation du 20h de France 2 des intermittents hier. Mais d'abord, quelques informations en bref. Grève générale en Grèce. Donc plus de 20 000 personnes ont défilé aujourd'hui 9 avril à Athènes et dans d'autres villes grecques à l'occasion d'une grève générale de 24 heures appelée par les syndicats du privé et du public. Donc les transports maritimes et ferroviaires étaient aussi à l'arrêt et seuls les aéroports fonctionnaient normalement. Il s'agit de la première grève générale de l'année 2014 organisée pour protester contre la poursuite d'une politique de rigueur pour la cinquième année consécutive depuis l'éclatement de la crise de la dette. Et le mouvement social intervient au moment de l'annonce faite par le gouvernement grec du retour du pays sur les marchés, donc les marchés internationaux et européens, après en avoir été exclu durant 4 ans à la suite de sa quasi-faillite en 2010.
Des radios.
L'armée rebelle en difficulté en Syrie, donc l'armée syrienne a pris aujourd'hui le contrôle total de Rankou, donc dernière grande localité tenue par les rebelles dans la région de Kalamoun, donc située au nord de Damas et à la frontière du Liban. Donc ça, c'est selon une source militaire citée par la télévision officielle syrienne. Donc la prise de cette localité située au nord de Damas constitue donc un grand pas dans l'offensive menée par l'armée afin de boucler la zone frontalière et d'assurer la maîtrise du principal axe routier entre la capitale Homs dans le centre du pays et l'ouverture sur la Méditerranée. Voilà.
Alors, avec la hausse des loyers et la précarisation de travail, de plus en plus de salariés se retrouvent sans domicile. Alors, c'est selon une étude de l'INSEE portant sur une enquête réalisée dans les services d'hébergement et dans les lieux de distribution de repas entre janvier et février 2012. Alors, cette étude révèle qu'un quart des SDF francophones, c'est-à-dire 24%, travaillent. Alors, bon, l'étude, là, le CAIR, vous l'aurez compris, ça se base sur les gens qui, francophones, c'est-à-dire juste qui parlent le français. 63% des SDF sont actifs, c'est-à-dire qu'ils sont soit au chômage pour 39% d'entre eux, soit en recherche d'emploi. Ces SDF, travaillent pour la plupart dans le bâtiment, l'hôtellerie ou la restauration pour les hommes. Les femmes, elles, travaillent principalement dans les services aux particuliers, c'est-à-dire ménage, aide à domicile, etc. Et dans l'hôtellerie, restauration, en clair, les secteurs d'activité les plus précarisants, et on retrouve le plus de boulot de merde. Plus globalement, 30% des SDF sont RSA, 25% ont un salaire, alors je mets salaire entre guillemets, parce que pour... voilà, en gros, quand t'es SDF et que tu touches un salaire, on considère que ton salaire est un peu minable. 8% perçoivent une allocation au chômage. 7% touchent l'allocation adulte handicapé et le reste d'autres prestations sociales et tout un tas d'autres ne touchent rien du tout. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est qu'en tout cas, il y a quand même 100% des SDF qui sont dans la merde et ça ne risque pas de s'améliorer avec leur connerie de vouloir combler le cadeau de 30 milliards d'euros aux entreprises en grignotant bien sûr sur les prestations sociales, parce que c'est vrai, ce que n'a pas montré l'étude de l'INSEE, c'est que les patrons ont aussi de plus en plus de mal à acheter un logement et se retrouvent comme des vulgaires locataires.
Ben, comme on l'avait déjà dit la semaine dernière, le 31 mars, ça signifie cette année la fin de la trêve hivernale. Et donc beaucoup de gens jetés à la rue, souvent après quelques nuits d'hôtel pour pas que ça fasse trop tâche. Et donc la semaine dernière, on avait parlé d'un l'occupation d'un centre d'hébergement où les gens devaient partir et ils avaient tenté de rester. Et là, aujourd'hui, en fait, place de la comédie là, à l'opéra, il y avait une visite en fait d'un appartement qu'ils avaient installé dans la rue. Et donc voilà, je voulais le signifier. Donc c'est plein d'assauts unis de Rhône-Alpes qui ont lancé ça. Donc il y a le Secours catholique, la FNARS, l'Alpil, la CIMAD, Emmaüs France, vous voyez, la Fondation Abbé Pierre, etc. Et c'était pour sensibiliser sur le fait que après le 31 mars, beaucoup de gens sont jetés à la rue, et ce qui fait qu'ils ont plus de maison et se retrouvent à dormir dans la rue. Voilà, du coup, ils avaient installé dans la rue toute une chambre, comme on peut en avoir une chez nous. Mais sauf que c'était dans la rue, et il faisait, alors ça j'ai pas trop compris, puis j'y suis pas allé, des visites d'idées insolites sur l'histoire véridiquement subjective des remises à la rue et des expulsions locatives. C'était des visites qui duraient 45 minutes et je sais pas trop de quoi il parlait dedans.
Parce que ce qu'on peut préciser aussi, c'est que là, cette année, la fin de la trêve hivernale n'a pas été hyper médiatisée, sûrement à cause des températures, dirons-nous, plutôt clémentes. Alors, ça vaut toujours bien le coup de le repréciser. Vous savez quand même que des températures clémentes quand on dort à la rue, ça n'existe pas, et qu'il fasse chaud ou froid, dehors on crève.
Et justement à Lyon aujourd'hui, il y a aussi un squat qui s'est fait expulser, donc le squat du KJB. C'était un squat qui était à côté des voies ferrées dans le 7e arrondissement, derrière Jean Massé en gros. Et du coup ils se sont fait expulser ce matin, et eux ils n'étaient pas du tout au courant, puisque la procédure leur avait pas été spécifiée par l'huissier. Donc l'huissier n'était pas venu leur remettre les papiers, et donc eux ils pensaient pas à se faire expulser maintenant. Du coup ça a été un gros coup, et surtout qu'il y avait des événements qui étaient prévus ce vendredi soir et ce samedi soir. Donc tenez-vous au courant si vous voulez aller à la soirée de soutien le samedi pour le Notav, et le vendredi c'est un concert. Donc tenez-vous au courant sur notamment Rebellion si vous voulez savoir où se feront ces soirées.
Alors aujourd'hui, nous avons deux brèves de prison et on va commencer par une évasion, et on l'a appelée évasion par la grande porte, où c'est un détenu de la maison d'arrêt de Brest qui s'est fait la belle au moment où un véhicule de l'administration pénitentiaire s'est fait ouvrir les portes pour rentrer dans la maison d'arrêt. Le détenu s'est barré en courant sans que personne ne puisse le rattraper. Alors tout, voilà, c'était tout simple. Je pense qu'il avait peut-être un peu prévu son coup, ça on sait pas trop, mais il s'est dit bon, la porte elle est ouverte devant moi, je suis enfermé, j'en ai marre, je me tire. Hier dans la journée, il n'avait toujours pas été retrouvé, on lui souhaite bon vent.
Cours Forest, cours.
Et on va à la maison d'arrêt d'Arras, où le 9 mars, à la fin de la promenade, les matons se sont retrouvés face à une quinzaine de détenus complètement bourrés et qui n'avaient absolument pas envie de regagner leur cellule. On les comprend. Alors l'administration pénitentiaire explique qu'il s'était fait jeter des bouteilles de whisky et de Ricard par-dessus les murs d'enceinte, là, vous voyez, dans le milieu de la tôle, on appelle ça les projections. Alors, en gros, c'est une personne extérieure va à un moment précis jeter un colis pour qu'une personne dans la cour des promenades le récupère. Alors voilà, ça peut être de l'alcool, du shit, un téléphone portable, un couteau, etc., etc. Et pour assurer leur coup, les lanceurs peuvent se munir de frondes et à l'intérieur pour les détenus pour se couvrir. Dès qu'il y a un colis qui tombe dans la cour, ils sont 15 à 20 à se mettre dessus, comme ça l'administration peut pas voir c'est qui les récupère, et puis voilà, comme ça au moins c'est un peu anonyme et tout, et ça fait qu'ils arrivent à se débrouiller comme ça. Bon, alors comme d'hab, les syndicats des matons flippent pour leur sécurité, ils disent ah c'est dangereux, nanana. Et dénonce la loi pénitentiaire. Alors là, on comprend pas pourquoi, mais à chaque fois que maintenant qu'ils ouvrent la bouche, là, ils dénoncent la loi pénitentiaire qui a interdit les fouilles systématiques à la sortie des parloirs. Là, en l'occurrence, ça a juste rien à voir. Parce que ça se passe complètement hors des parloirs, mais bon, voilà. Ils veulent rappeler ça à chaque fois, sauf que ce truc-là, la fouille systématique a été retoquée par, le Conseil des droits de l'homme européen, enfin bref, une haute instance juridique qui disait que c'était juste complètement humiliant. Bon, ça, après, comme le reste de la prison.
Eh bien, je vais prendre le temps de parler du génocide au Rwanda et du rôle de l'État français, parce que on en parle quand même beaucoup depuis lundi, puisque le gouvernement a refusé d'envoyer donc sa ministre de la Justice aux commémorations au Rwanda. Il y avait juste un ambassadeur qui s'y était rendu, puisque la France ne veut toujours pas admettre son implication directe dans le génocide en 94, et ça, c'est pas faute de preuves. Donc, en évitant toute participation au débat public lors des commémorations en France et au Rwanda, le lundi donc 7 avril, les questions aussi sur le rôle de la France étaient sur toutes les lèvres, donc François Hollande a clairement fait une faute politique et historique, on peut le dire, majeure, puisqu'il a laissé les acteurs politiques et militaires de l'époque monopoliser le champ médiatique, et en mettant à l'état d'hypothèse donc l'implication de la France qui s'avère directe. Moi, je trouve que c'est quand même hallucinant quand j'ai entendu les médias qu'ils l'évoquent comme une hypothèse, alors qu'il y a quand même beaucoup de revues, de livres, etc., qui sont sortis avec preuves à l'appui pour montrer. Mais pourquoi c'est toujours pareil? François Hollande, plutôt que de choisir le camp de la vérité, a préféré céder aux injonctions et menaces d'anciens responsables politiques ou militaires. Et c'est en fait les responsables politiques et militaires de l'époque sont encore des gens haut placés, dont Alain Juppé, Édouard Balladur, Hubert Védrine, Paul Quilliès, l'amiral Langsade, le général Quesneau, les anciens officiers des opérations françaises au Rwanda, regroupés au sein de l'association France Turquoise. Donc en fait, ces gens-là, ils ont de l'influence, ils lâchent pas l'affaire, et du coup ça fait que le gouvernement se pisse dessus. Et du coup, ces gens usent depuis 20 ans de toute leur influence pour taire les secrets les plus inavouables de l'armée et de la diplomatie française au Rwanda, en bénéficiant bien sûr d'un large accès aux médias. Donc cette complicité multiforme a été évoquée par plusieurs intervenants lors de cérémonies qui ont été organisées par Survie dans différentes villes. Donc ça, ça a été évoqué donc lors de la cérémonie devant l'hôtel de ville de Paris. Les autorités françaises restent sourdes à la demande de faire toute la lumière sur cet épisode du passé et de publier les archives françaises de cette époque. Ces revendications qui font consensus auprès de d'organisations telles que l'IBUCA, SOS Racisme, Survie et de représentants de partis ou mouvements politiques français ont été mises en présence d'un membre de la cellule diplomatique de l'Élysée, mais sans autre représentation diplomatique ou protocolaire notable. Et notamment Anne Hidalgo, qui est la nouvelle maire de Paris, avait annulé sa venue. Donc ce qui fait qu'il y avait, pour écouter ces trois assauts, juste un clampin.
Ça fait pas beaucoup.
Oui. Donc, je vous l'ai déjà dit là, Survie avait organisé différents événements à Rennes, Bordeaux, Bressure, Toulouse, Chambéry, Paris, etc. Et aussi, je vais vous conseiller, puisque comme on en parle, j'avais envie de vous renvoyer sur le site de survie.org qui met à disposition des documents pour comprendre ce qui s'est passé il y a 20 ans. Donc le dossier sur leur site s'intitule 20 documents pour comprendre le rôle de l'État français. Donc aucun de ces documents n'est inédit, bien sûr, mais leur rassemblement leur donne une force particulière. Et vous pouvez aussi également trouver d'autres livres, et notamment un livre qui était paru, qui s'appelle Un génocide sans importance, qui était paru aux éditions Time Party, qui revient aussi sur le génocide. Et pour finir, une actu lyonnaise, c'est que le premier adjoint au maire de Lyon, qui s'appelle Georges Kepenekian, se distingue lui du gouvernement, puisqu'il est plutôt puisque lors d'une cérémonie de commémoration à la mairie du 3e, donc organisée aussi lundi par l'association de survivants Oubouka, il a déclaré: en tant qu'Arménien, nous savons combien les complicités des États ont pu rendre possibles ces crimes contre l'humanité. Nous avons besoin de clarté et je participe bien sûr à cette volonté. Rien n'est plus grand que d'assumer sa propre histoire, et cela vaut pour tous les États. Lyon sera à vos côtés pour vous soutenir et pour exiger la justice. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, quoi. Et donc l'association des rescapés du génocide rwandais, donc IBUCA Rhône-Alpes, a lancé un projet de mémorial à Lyon en hommage donc aux 800 000 Tutsis victimes du massacre en 94. Et pour l'instant, aucune figure ni aucun emplacement n'aurait été déterminé pour le monument. Si ce n'est, attention, qu'il devra représenter la paix universelle. Hein,
on sait pas bien ce que ça veut dire, ça.
Ouais, représenter la paix universelle. Bref, en tout cas, y aurait un monument quelque part à Lyon. Et pour dire, quand même, en France, il y a 4 monuments qui existent déjà. Et voilà.
Et pour ajouter, ce qui est quand même toujours hyper intéressant de se renseigner sur le rôle de la France dans ce génocide-là, parce que je trouve que ça permet vachement de se rendre compte de c'est quoi les implications d'un État et d'une intervention extérieure, et c'est quoi les enjeux de comment par exemple l'État français peut placer un président en Afrique, en l'occurrence, et elle l'a fait au Rwanda, mais comme elle le fait dans beaucoup de pays et qu'elle continue vachement à le faire. Du coup, c'est toujours intéressant de savoir un peu les fonctionnements entre de l'État français sur d'autres États africains, et donc voilà, c'est toujours intéressant de se renseigner là-dessus.
Oui, et puis les fonctionnements, parce qu'il y a faut jamais oublier que c'est pas que des militaires, quoi.
Et oui, c'est ça.
Toute la diplomatie française est souvent tout un gouvernement qui est mouillé,
et des grosses boîtes qui veulent rafler des gros contrats, tout ça.
Oui. On pourrait s'écouter une...
Exactement, c'était ce que j'allais dire, on est complètement raccord. Et ben on va s'écouter Keep Going du groupe Invincible, et c'est maintenant sur Radio Canu. Even when I wanna stop, is it the release and the anger that makes me murder the tracks? Or the silent majority turning your backs? Is it the passion of the love or the drive or the fate? Is it the knowledge that our lives are a stake? Is it preparing for the moment when opportunity knocks? Even when I wanna stop,
to all the haters and biters. You motivators and ciphers. My flows and cadence related to notebook paper papyrus. Been on tour with bronchitis, laryngitis. Every night I rock the spiders. Some of these cats acting like they're wearing diapers. And I keep on even when my hand tires. No labels of vampires, no fun as a grant writers. Inspired by freedom fighters before us and coming after us. For the present survivors of human massacres. Considered suicide when rainbows was not enough. And bankrolls was clotted up. It's painful, I brought it up. But you gotta come out from different angles. It's bottled up. Summer with a ladle from the cradle to my body's dust. Nothing else synonymous to the feeling I get from demanding respect and knowing that I'm earning all my pace. Stay persistent, you determined in your fate. Always changing cause I learned from my mistakes. Even when I wanna stop. Even when I wanna stop. Is it the release and the anger that makes me murder the tracks? Or the silent majority turning your backs? Is it the passion of the love or the drive or the fate? Is it the knowledge that our lives are a state? Is it that banging hip hop shit when you turn it up a notch?
Even when I wanna stop. Mornings and nights with gas soaring in price. Got two daughters and wife, need food, water and lights. Can't be on corners with dice. Unsure of a bite, needing two quarters for rice. A dollar short of a slice. The recordings are right, got me boarding a flight to somewhere foreign with sights I never saw in my life. Dear Lord, loud roars, online orders and hype. Crowd applause, doors and windows, in stores with the snipes. Shaking hands and flattery, fans on my battery. Some pissed, some mad at me, many that listen happily. Overseas, cross borders, camcorders capture me. No, I have a purpose from how people react to me. Artists that want me to feature, that's saving cash for me. Producers that be waiting for payments, that's saving tracks for me. Constantly I kill it, you agree that I'm the illest. Cause I require it with skillets, you've seen that I fulfill it. Keep going.
Even when I wanna stop. Even when I wanna stop. Is it the release and the anger that makes me murder the tracks? Or the silent majority turning your backs? Is it the passion of the love or the drive or the faith? Is it the knowledge that our lives are a stake? Is it that banging hip hop shit when you turn it up a notch?
Even when I could've stopped, jumped on a 33, hit the I-90 at the 390. I left that bullshit behind me, reached up and pulled my rear view off like I knew. Out like I was locked down and a nigga just got bail. Like I was hospitalized and a chick just got well. My only plans now are to follow my dreams. At the East 17, I felt the black clouds lifting. I relaxed in my seat like I was smoking a spliff. You hauling and pulling my shit behind me. Like 128 for saying niggas where you find me. Cause upstate west of New York is too grimy and I'm never going back like Fleetwood Mac. Like an old special land over my deep track. From the 81-380-80 tunnel to the bridge, I watched the eyes light up on the face of my kids. We stepped out in disbelief of what we finally did. I kept going, going, going.
Yes indeed. Words, words. YG Clean 47, yeah, yeah. Finale.
Et bien c'est toujours l'heure du Canu Info, il est 19h25 et c'est la suite du journal. Après avoir écouté un groupe états-unien de meufs invincibles.
Et on va parler de la presse et de notre super journal local, Le Progrès, ce fameux journal d'investigation lyonnais et de sa région, bien connu pour ses articles fouillés, ses informations vérifiées et ses citations d'une exactitude à faire pâlir une horloge astronomique, nous sert un article où les mots « journal » et « journaliste » prennent tout leur sens. Alors le titre de l'article en question, c'est « Faux handicapé, mais vrai mendiant ».
Oh là là.
Attention, il y a du lourd. Alors, c'est les douaniers suisses qui étaient à deux doigts, enfin ils pensaient qu'ils étaient à deux doigts de faire un coup de filet. Pendant un contrôle douanier à la gare de Genève-Cornavin, des agents des douanes ont fait une stupéfiante découverte. En ouvrant les bagages de ces deux personnes, ils ont découvert, attention, tenez-vous bien, il y a du lourd, plusieurs béquilles soigneusement dissimulées. Alors soigneusement dissimulées, c'est les termes du journaliste. Alors les deux hommes d'origine roumaine, comme nous le précise à chaque fois Le Progrès, reconnaissent qu'ils sont partis de Lyon pour venir faire la manche à Genève. Alors bon, en même temps, on les comprend, c'est sûr que c'est encore plus rentable de faire la manche dans une ville où il y a le plus de pognon au mètre carré. Et que si les gens sont assez couillons pour filer plus de thunes à un type avec une berquille, perso, je vois vraiment pas où est le problème. Ce qui aurait été un tout petit peu plus surprenant, c'est s'ils étaient allés faire la manche, par exemple, je sais pas, moi, à Athènes. Ouais. On se dit, bon, là, il y a plus de pognon, quoi. Bon, mais comme les Suisses n'ont pas encore fait de référendum pour demander une loi stipulant qu'il était interdit à tout ressortissant roumain de pénétrer sur le territoire avec des béquilles, bon bah ils ont été relâchés direct. Par contre, ce que précise pas du tout le journaliste, c'est que si ces deux-là se sont fait contrôler par les douanes, c'est juste parce qu'ils avaient des gueules de rhum et qu'ils tiraient avec eux un caddie, et qu'au final les douaniers n'ont rien trouvé pour les obliger à faire demi-tour, sachant qu'à mon avis, connaissant les douaniers suisses, s'il n'y avait pas eu le journaliste, peut-être qu'il se serait comporté un tout petit peu différemment. Alors ça, je dis pas du tout ça pour défendre le journaliste, mais et je pense qu'il aurait peut-être fait demi-tour, tout ça pas du tout dans les règles. Mais bon, voilà comment notre cher canard local traite l'information à Lyon.
Moi, je vais continuer sur les implications de la France, mais cette fois au Mali. Et donc, la CADTM, donc c'est le Comité pour l'annulation de la dette au tiers-monde, et l'association Survie, qui exige du nouveau gouvernement français d'arrêter d'instrumentaliser l'aide au Mali. Donc, pour l'histoire, on va parler d'entreprises et de gros sous. Lors de la conférence Ensemble pour le renouveau du Mali qui s'était réunie à Bruxelles le 15 mai 2013, donc il y a à peu près un an, la France était engagée officiellement à aider le Mali à relancer son économie et favoriser l'emploi des jeunes. Or, la réalité est bien différente. Le gouvernement français sert avant tout les intérêts privés des multinationales françaises, bien évidemment. Donc la diplomatie française a en effet obtenu la signature de 5 contrats au profit des entreprises privées françaises opérant au Mali dans le cadre de la mission des Nations Unies. Ça s'appelle la MINUSMA. Mais bon, on n'a qu'à s'en foutre des sigles parce que sinon on s'en sort pas. Donc dans une brève, alors je cite, datée du 13 mars 2014, le ministère français des affaires étrangères déclarait sur son site France Diplomatique, donc, le secrétariat des Nations Unies a attribué hier 5 contrats de gré à gré à des entreprises françaises afin de construire dans le nord du Mali des infrastructures au profit de la mission des Nations Unies. Le montant total de ces contrats s'élève à 34,7 millions d'euros. Ce succès remporté par nos entreprises et l'opérateur public du ministère des Affaires étrangères, France Expertise Internationale, s'inscrit dans le cadre de nos efforts en matière de diplomatie économique et des partenariats entre entreprises et pouvoirs publics. C'est la première fois qu'une telle procédure est mise en œuvre par la France. Bon, j'ai pas tout lu, j'ai un peu coupé parce que c'est un peu plus long. Et selon le quotidien français Les Échos du 13 mars 2014, donc il y a très récemment, d'autres contrats pourraient suivre dans la logistique, l'approvisionnement en nourriture, l'alimentaire ou encore dans les carburants. Car la France cherche en toile de fond à optimiser le taux de retour. Ça, c'est ce qu'explique le Quai d'Orsay. Elle veut retrouver en contrat les montants versés au titre de la contribution multilatérale. Bon, alors cette contribution, elle s'élève à 48 millions de dollars sur un budget annuel onusien de 260 millions. Ce qui fait quand même une belle partie. Donc ça, c'est quand même un nouvel bel exemple de l'aide française conçue comme une subvention déguisée à ces entreprises. Quand même, ces 48 millions, ils sont censés aider directement les personnes et pas, ils sont pas censés servir à des entreprises qui peuvent peut-être par la suite aider des Maliens, quoi. C'est censé être versé directement à des Maliens. Voilà la définition de l'aide des entreprises, du moins de l'ONU et des entreprises françaises. Du coup, le réseau international CADTM, donc je vous ai dit Communauté pour l'annulation de la dette et du tiers-monde et survie, donc dénonce ces politiques néolibérales de la diplomatie française qui permettent à la France d'obtenir une contrepartie pour son effort militaire au Mali via ses contrats conclus donc le 12 mars 2014 dans le seul intérêt du capital français. Donc ces contrats prouvent une fois de plus que l'aide promise au Mali en mai 2013 par les entre guillemets donateurs, dont la France, est une imposture. Et rappelons par ailleurs que pas moins de 36% de l'aide promise par la France est en réalité composée de prêts qui maintiennent le peuple malien dans le piège de la dette. Ce n'est pas de l'aide, c'est rembourse-moi à des taux, des jolis taux. Et donc, le réseau CADTM et Survie exige l'annulation de toutes les dettes illégitimes du Mali à l'égard de la France, mais aussi envers d'autres créanciers comme la Banque mondiale et le FMI qui utilisent l'arme de la dette pour imposer leur politique néolibérale. Et du coup, ils apportent le soutien à la démarche d'audit citoyen de la dette initiée par la CAD Mali, coalition représentant 103 organisations de la société civile malienne. Donc voilà, en gros, ça veut dire qu'ils soutiennent des gens du Mali qui luttent contre la dette.
Alors, on va vous parler d'Al-Qassim, qui est un lycéen sans papier en section professionnelle au lycée Charlie Chaplin à Décines. Le 31 mars, il est convoqué à la PAF, il s'y rend et ses camarades de classe commencent à s'inquiéter quand ils ne le voient pas revenir les jours d'après. Ils apprennent que le mercredi 2 avril, il a été incarcéré à la prison de Corba suite à une comparution immédiate expéditive au motif qu'il aurait soi-disant triché sur son âge et volé le conseil général. Alors, pour expliquer vite fait, sur ce truc de mentir sur son âge, les flics n'ont pas le droit d'expulser les mineurs sans papier. Il y a donc tout un tas de moyens à la disposition des flics pour vérifier quand un migrant sans papier se déclare mineur, comme par exemple de faire des tests osseux. Sauf que les tests osseux sont, bon, hormis le fait qu'ils coûtent hyper cher à faire, ils sont quand même très peu précis, mais ils restent néanmoins considérés par la préfecture comme faisant foi. Ce que le tribunal reproche donc à Al-Qassim, c'est d'avoir menti sur le fait qu'il était mineur, les tests osseux prouveraient donc le contraire, et d'avoir volé le conseil général. Alors ça, bon, ça veut dire qu'il n'est pas allé au conseil général à la confiance, il me semble, en braquant leur coffre-fort. C'est juste que comme il s'est déclaré comme il s'est déclaré mineur, et que les tests osseux disent soi-disant le contraire, en gros, le conseil général, quand un mineur sans papier arrive sur le territoire, il y a quelques dispositifs qui sont mis en place plus que pour les majeurs, comme en général être pris en charge dans un centre d'hébergement, et en gros là il est condamné à rembourser ce que ça a coûté, tout ça là, toutes les espèces d'aides financières et son hébergement. Enfin bon, c'est complètement absurde.
C'est clair.
Voilà, pour ça il a quand même pris 4 mois de prison ferme avec mandat de dépôt et DRCL a la quasi certitude de sortir de prison pour aller directement au centre de rétention. Parce que ça arrive souvent, mais en plus Valls, quand il était au ministère de l'Intérieur et pas encore Premier ministre, il a fait passer une circulaire demandant au préfet de se dépêcher à fond quand les gens sortent de prison, pour que justement il y ait quand tu sors du prison que t'es sans papier, que tu sois pas relâché dehors et que du coup t'arrives un peu à te barrer, mais que tu sois reconduit en centre de rétention directement et qu'après on procède à ton expulsion du pays. Une mobilisation a été lancée par ses camarades de classe pour qu'Al-Qassim sorte de prison, réintègre les cours et ne soit pas expulsé. Voilà, c'est les seules infos qu'on a pour l'instant là-dessus. Si on arrive à choper d'autres infos sur l'affaire, ou si vous faites partie des camarades d'Al-Qassim et que vous nous écoutez, et ben vous pouvez toujours essayer d'appeler la radio et nous envoyer un mail pour nous tenir informés de la mobilisation.
Alors, quelques news de Calais. Donc, depuis le début de l'année et suite à la venue de notre premier nouveau Premier ministre Manuel Valls à Calais, donc des fourgons de CRS patrouillent autour du lieu où sont distribués les repas aux exilés. Donc, dès une heure avant le début du repas, jusqu'après la fin de celui-ci. Donc, une belle manière de mettre la pression, vous voyez. Quand des personnes sans papier viennent pour se restaurer et qu'il y a des flics tout autour d'eux, c'est sympa, quoi. Donc, à environ une demi-heure avant le début du repas, trois fourgons de CRS, ou parfois plus, et un nombre variable de véhicules de la PAF s'installent à l'entrée du lieu et distribuent et de distribution et aux intersections voisines, et ils restent après la fin du repas. Et cette pression donc intimidante vise bien évidemment en premier lieu les exilés, et elle s'est étendue ces dernières semaines aux bénévoles avec des amendes diverses et variées. Donc tout type d'amende est la bienvenue quand ils voient que c'est des bénévoles pour faire chez les bénévoles, et aussi énormément de contrôles de véhicules, puisque les gens se déplacent en véhicule. Voilà, du coup, ils prennent ce qu'ils peuvent pour faire chier. Et donc, je vais encore parler de chiffres, parce que c'est quand même intéressant. Donc, le conseil municipal de Calais a décidé le 18 décembre dernier d'installer des clôtures renforcées, donc autour des douches mises en place pour les exilés, donc pour cantonner encore plus les gens, et de construire un serre-fil au lieu de distribution des repas. Donc, c'est des barrières, quoi, pour... pour mettre les gens au pas, quoi. C'est une manière de quadriller le terrain, quoi. Et puis pour faire chier les bénévoles, etc. Et donc le coût de l'opération, quand même, pour un mur et des grilles, c'est 30 000 euros. 30 000 euros, c'est quand même une belle somme juste pour faire chier, ça fait beaucoup d'argent. Mais là, si on s'imaginait mettre cet argent ailleurs que dans la sécurité, et ben, par exemple, il y a des gens de Calais qui sont allés regarder sur Internet et qui se sont rendus compte qu'un chapiteau de cirque, bah, ça coûtait 20 000 euros d'occasion, mais de bonne qualité. Et notamment, un chapiteau de cirque, ça permettrait aux exilés de manger à l'abri de la pluie et du vent toute l'année. Et qu'eux, ils trouveraient ça 10 000 fois plus chouette, quoi. Une politique d'hospitalité, donc. Plus, mais bon, ça...
C'est complètement à contre-courant. Hein.
Ouais, voilà, ça, c'est une autre histoire. On n'est pas dans la même période. Et autrement, on en avait déjà parlé la semaine dernière, mais l'extrême droite est à Calais, là, le dimanche 13 avril. Donc, l'extrême droite suit le sens du gouvernement Valls, puisque Sauvons Calais fait sa rentrée en appelant à manifester contre les squats dimanche, donc 13 avril à Calais. C'est du moins ce qu'ils annoncent en ayant mobilisé nationalement dans les groupes d'extrême droite radicale. Mais moi, j'ai trouvé assez réformiste quand même ces, ces personnes, parce qu'ils suivent vraiment la politique de Valls, quoi. Du coup, c'est pas... ils se la jouent un peu radicaux, haineux et tout, mais quand même, ils sont vraiment dans le sens du vent, quoi.
Ils suivent les pas de Manuel, quoi.
Ouais. Donc, est-ce que j'ai besoin de faire un rappel? Il y avait eu, les manifs de Sauvons Calais, au départ, avaient fait flop. Puis ensuite, ils avaient attaqué très, très violemment un squat. Et ça avait été quand même énormément, énormément médiatisé, puisqu'ils n'y étaient pas allés de main morte, avec menace de mort et de viol, tentative pour entrée de force, jet de cocktail Molotov, sous la police qui n'intervenait pas, et le préfet considérant qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public. Et donc cette impunité avait permis à ce ce rassemblement s'installe devant le squat pendant une semaine, jusqu'à faire partir ses habitants. Donc ça, je le répétais pour montrer la connivence quand même entre le préfet et Sauvons Calais. Et concernant les squats, pour contrer les expulsions illégales, notamment à Coulogne, là où la police est bloquée pour expulser illégalement, eh ben, ils laissent bien faire, Sauvons Calais, le boulot. Et donc, pour le 13 avril, des menaces claires de Sauve-au-Calais contre les squats en général, et ceux ouverts par No Border et Salut au Toit en particulier. Donc, No Border et Salut au Toit, ben, c'est en gros des activistes qui soutiennent les migrants assez activement depuis un sacré paquet d'années à Calais, et ils sont aussi quand même la cible de cette extrême droite. Et moi j'ai vu une affiche là qui est assez folle, puisque je vais essayer de vous la décrire. Donc il y a les noms de 5 squats. Le premier, c'était le squat de Coulogne, le numéro de la rue, etc. Et il y a une petite flèche genre verte validée dessus, où c'est marqué en vert à côté évacué. Et sur les 4 autres noms de squats, du coup, il y a vraiment la rue où on peut les trouver facilement. Et ben, c'est des croix rouges où c'est marqué squatter. Du coup, c'est sous-entendu, vous voyez, genre c'est mauvais, c'est faux, il fallait les virer, quoi. Ça, c'est les affiches qui circulent en ce moment à Calais.
Ambiance.
Et ouais, c'est une super ambiance, quoi. Mais donc, face à cette situation, donc, des choses se préparent aussi. Donc, No Border a discuté ces dernières semaines avec les exilés des différents campements de la situation et des fachos, et des mesures de prudence à prendre pour éviter en tout cas des accidents graves ce week-end, puisqu'ils vont venir en force, l'extrême droite, ce week-end. Et il y a aussi eu un appel à contre-manifestation qui a circulé dans les réseaux Antifa et de défense des squats qu'on avait lu la dernière semaine. Et il semble que ça a été écrit et que la perception soit assez lointaine de la réalité calaisienne. En tout cas, des Calaisiens disent ça, mais en tout cas, il va y avoir quand même une mobilisation en tout cas, il y a un appel à plein de gens à venir ce week-end pour soutenir les squats.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
That boy you call is a diamond fella. All you little boys are a comedy of errors. You fellow, but you fellows get played like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tamed like the shoe.
Et hier soir, le 20h de France 2 a été interrompu par les intérimaires et des intermittents. Donc c'était à 20h17 qu'une cinquantaine de personnes ont investi le plateau du journal de France 2 afin de lire un communiqué contre un projet de convention UNEDIC qui aggraverait la précarisation en s'attaquant principalement aux salariés les plus pauvres, qu'ils soient au chômage, en emploi discontinu ou en activité à temps réduit. On avait eu un intermittent il y a quelques semaines pour venir nous expliquer les détails de cette réforme. Et à peine les manifestants étaient-ils arrivés sur le plateau que le son était interrompu. Et quelques secondes plus tard, David Poujadas déclarait rendre l'antenne en raison d'une occupation. Donc eux, en gros, ils n'ont pas réussi du tout à lire leur communiqué. Ce qui aurait pu être un peu courageux de la part de l'équipe médiatique du journal de 20h de leur laisser la parole.
Ce qui s'est déjà fait en plus, à d'autres moments, enfin sur d'autres mobilisations d'intermittents, ça arrive, c'est déjà arrivé que des présentateurs laissent la parole aux petites mains.
Eh ben oui, surtout que les médias de masse, ils laissent peu la parole aux gens qui critiquent les réformes. Et donc eux, quand même, ils jouent pas mal le jeu de l'information qui constitue autant de publics reportages en faveur des orientations patronales et de celles des syndicats qui osent s'allier avec le MEDEF contre l'ensemble des salariés. Du coup, ça aurait pu être pas mal de les laisser parler. Et il y a quoi dans les prochains jours à faire? Mais il y aura peut-être les deux concerts là qui seront dans un autre lieu.
Oui, c'est ça.
Mais en tout cas, pas au KGB.
Jetez un coup d'œil sur rebellion.info.
Voilà. Et sinon, samedi, à la librairie Terre des Livres, qui est une librairie dans le 7e arrondissement, 86 rue de Marseille. Et ben il y a une lecture en soutien à Act Up Paris, qui est en galère financière Et donc ça va être une lecture un peu pour expliquer l'action que mène ACT UP depuis 89, voilà. Et il y aura ensuite une tombola, et du coup il va y avoir plein de lots à gagner, et ça sera dans un bar du 7e arrondissement qui s'appelle Live Station DIY, et c'est rue de Bonald. Voilà, et ça, il y aura des cocktails en soutien à ACT UP, et puis voilà, une tombola pour faire un peu de l'argent pour leur envoyer, et pour que cet asso continue à lutter contre le sida.
Oui, parce qu'ils sont en galère financière, mais c'est une galère financière qui menace très concrètement leur existence, et ce serait dommage, parce que juste pour situer vite fait, ACT UP, c'est une des seules associations qui revendique, ultra...
Activiste, quoi.
Activiste sur son mode de revendication, et c'est assez classe ce qu'ils font. Oui. On n'a pas vraiment envie qu'ils disparaissent.
Non. Alors venez samedi. Voilà, et ben.
On a fini ce Canu Info.
Bonne soirée, à la semaine prochaine.
C'est ça, et on laisse l'antenne un petit quart d'heure plus tôt, et ça fait qu'on vous laisse avec 15 minutes de bande continue, et après ce sera à 8h l'heure d'Idée Noire.
Ciao, ciao.